Merci. Bonjour. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances et de bonnes fêtes de Pâques. Nous avons encore un peu moins de la moitié des cours à voir et encore beaucoup de matière. Nous avions commencé à voir avant les vacances la fondation de la royauté en Israël et nous avons perçu que ce n'était pas chose facile, qu'il y avait derrière l'histoire telle qu'elle nous est racontée dans la Bible, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas reprises, mais qui faisaient difficulté. D'abord, à l'intérieur, il y avait des difficultés et des compétitions entre les différentes tribus, notamment la tribu de Benjamin, d'où était né Shaoul. Shaoul provenait donc de cette tribu. Et David, qui venait de la tribu de Juda. Et ce n'était pas chose aisée. Nous avons vu que David, dès le départ, était un homme ambitieux, qu'il désirait véritablement être roi et qu'il est arrivé à ses fins. Et que Samuel, d'autre part, montrant une autre voie, une voie plus intérieure peut-être, disait « Attention au pouvoir ». Dès que l'on prend le pouvoir, et nous le voyons bien aujourd'hui encore, c'est tout à fait la même chose qui se passe. Dès que nous prenons le pouvoir et que nous voulons le maintenir et nous voulons posséder ce pouvoir, et rien à faire, les choses ne marchent plus. Donc le chemin n'est pas bon. Et c'est précisément ce que l'histoire des rois veut nous expliquer. Que le chemin du pouvoir qui devient domination et qui n'est plus un service, service de la cause commune, service véritablement du peuple, c'est pas tout à fait la même chose que la démocratie, mais que si le pouvoir n'est plus service du peuple, alors l'histoire va mal. On arrive à un écueil. Et c'est bien le sens théologique, puisque les auteurs de la Bible travaillent théologiquement, ils ne nous racontent pas l'histoire telle que périphériquement elle s'est passée, mais l'histoire profonde, ça ne peut pas marcher. Je vous signale que dans la revue que vous connaissez sans doute, la revue Biblia, qui est assez remarquable, et que Ansupa a dirigé, elle dirige encore, mais pendant 10 ans, chaque année, 10 numéros de cette revue Biblia ont pratiquement parcouru toute l'histoire de la Bible. Et c'est peut-être la meilleure introduction que l'on peut lire aujourd'hui, c'est de prendre pour l'histoire de la royauté depuis le numéro 55, année 2007, vous trouvez à la bibliothèque, je le remettrai tout à l'heure, de 55 à 58, vous trouvez remarquablement présenté toute cette histoire de la royauté en Israël, qui vous fait voir à la fois historiquement, archéologiquement et théologiquement, qui vous fait voir justement cette histoire dans ses différentes dimensions. Le numéro 55 a comme auteur Jean-Pierre Sonnet en grande partie, et le numéro 58, ce que nous allons prendre tout à l'heure à propos de Salomon et de la suite des rois de l'histoire, c'est Philippe Abadi qui enseigne à Lyon, l'Institut catholique de Lyon. Mais je voudrais, en guise de reprise de ce que nous avons vu à propos de David, vous lire l'introduction de ce numéro 55 du moins en partie. Et donc, c'est le point de vue de David. Qu'est-ce que David a apporté ? Il a apporté une dynastie, il a apporté le fait que un royaume pouvait être possible en Israël, hein, fais-nous un roi comme les autres nations. Donc la royauté devrait normalement faire l'unité. L'union fait la force, hein, disons-nous aussi, aujourd'hui. L'union. L'union fait la force, pas la domination, ni la tyrannie. Et voici, il ne suffit pas d'être roi. Ça, c'est un numéro 54 qui était composé, disons, autour de l'institution de la royauté en Israël. Il ne suffit pas d'être roi. Encore faut-il savoir être père. Parmi les nombreuses leçons que délivrent les récits sur David, celle-ci, David père, et nous avons vu qu'il était un père malheureux, celle-ci se détache douloureuse parce qu'elle s'ancre dans l'amour contrarié d'un être pour les enfants de sa chair. Et c'est une chose que nous retrouvons aujourd'hui encore dans les histoires de famille. Parce qu'elle s'ancre dans l'amour contrarié d'un être pour les enfants de sa chair. Et tragique, car elle dévoile jusqu'où peut aller la soif du pouvoir. Et c'est pas seulement pour les chefs de peuple, c'est vrai aussi dans la vie courante. La soif de pouvoir. Ce que David nous apprend concerne certes les rois, et beaucoup d'entre eux ont médité sur les malheurs de David, mais aussi toute personne confrontée tour à tour au succès, puis à l'échec. Et c'est une réalité de toutes nos vies. Confrontés au succès et aussi à l'échec. Et tout cela fait partie du plan de Dieu, parce que Dieu travaille toujours avec l'histoire telle que les hommes la font. Et voyez, la réalité, échec et succès, et la manière dont on écrit la réalité sous le point de vue de Dieu quand on prend alors le texte de la Bible. C'est donc une leçon universelle que la Bible propose au fil de ses pages denses, construite avec un art consommé du narrateur. Et c'est pourquoi c'est une histoire importante. Alors, il parle de l'intervention du prophète Samuel, nous l'avons vu au chapitre 8e du premier livre de Samuel. Et puis, comment se fonde la maison de David? Et David, qui est dépassé lui-même par son fils Absalom, qui se révolte contre lui et qui fonde un parti contre son père, face à ses fils Amnon, Absalom et Adonias, David fait preuve d'incohérence et d'inconséquence. C'est souvent ce que nous faisons aussi. De sa vie, nous dira le narrateur à propos d'Adonias. Son père ne l'avait contrarié en disant « Pourquoi agis-tu ainsi ? » Est-ce parce que David eut lui-même un père absent ? Jessé, on ne voit pas vraiment avoir exercé sa paternité dans le texte. On s'en souvient. Ne jugea pas le petit dernier digne de figurer parmi ses fils lors de la visite du prophète Samuel. Alors, note intéressante et importante, peu de choses sont établies de manière historique au sens moderne du terme évidemment, à propos du royaume de David. La stèle de Tel Dan nous a appris qu'une maison de David, de fait il y a une stèle qu'on a retrouvée, qui parle de la maison de David, c'est-à-dire de la dynastie, faisait à tout le moins partie de la scène politique du Proche-Orient ancien au IXe siècle avant le Christ. Les exégètes reconnaissent souvent dans l'histoire de sa succession l'une des sources que l'école deutéronomiste intégra dans son histoire. Donc l'auteur deutéronomiste qui a écrit toute cette histoire d'Israël, cet auteur s'inspire d'un certain nombre de choses qui étaient courantes dans la mémoire de son temps. s'étend elle-même du livre de Josué au livre des rois, ça nous le savons. Dans les pages qui suivent, l'approche sera essentiellement narrative. Nous verrons combien l'ensemble de 2 Samuel 6 à 1 roi, c'est-à-dire toute l'histoire de la succession de David jusqu'à finalement Salomon, trouve son sens dans une intrigue qui sera caractérisée comme tout ce qu'il faut pour être père. Difficile d'être véritablement père. Elle prend le relais d'une première intrigue présentée en Biblia numéro 54, donc le numéro précédent, comme tout ce qu'il faut pour être roi, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut être, hein, pour être roi. En fait, royauté et paternité combinent progressivement leur symbolique et leur dramatique dans la personne de David. Intéressant à voir qu'il y a là une histoire qui fait réfléchir pour des histoires de famille. C'est dire combien son histoire, avec sa portée historiographique, politique et théologique, est aussi une grande parabole anthropologique, nous faisant méditer sur les possibles de l'homme. Mais la Bible nous montre les possibles de l'homme devant Dieu. Et c'est pour ça que la Bible a été écrite. Quel est le point de vue de Dieu dans cette histoire? Comment agit-il avec ce que lui donne la situation concrète? Et nous avons toujours dans nos existences la liberté de nous trouver devant des situations qui nous désorientent, qui nous déconcertent et avec lesquelles nous avons à travailler. Et alors, le numéro suivant, le numéro 56, c'est Salomon le Magnifique. Avec David et Salomon, nous arrivons à ce qu'on peut appeler la réalité de l'histoire. Je dis réalité, entre guillemets, de l'histoire. C'est-à-dire, nous passons à une mentalité beaucoup plus historienne, qui essaye justement de marquer, à cause des noms qui sont cités, hein, des noms de villes, des lieux, à cause des noms propres qui sont cités, il nous permet de nous raccrocher à une histoire au sens moderne du terme, c'est-à-dire à une succession de personnages qui ont leur caractère et qui travaillent de leur manière dans l'histoire humaine. C'est ce que j'essaye de vous dire de façon un peu plus condensée à partir de la page 87 du syllabus. Et dans l'introduction, la page 87 des livres des rois, que j'intitule « Les livres des rois, détresse et espérance de la monarchie ». Détresse et espérance. Et nous avons encore cela dans le Nouveau Testament, avec la passion et la résurrection du Seigneur. Et nous voyons bien, c'est une reprise, au fond, de cette thématique profonde de l'alliance. Comment Dieu vit-il l'alliance avec les hommes? Question qui se pose, et comment la vivons-nous, cette relation? Ces livres ne constituent pas une chronique circonstanciée des faits et gestes des rois qui ont gouverné Juda et Israël pendant cette période, car on verra qu'à partir de 721, il y a une division, non, à partir de 931, pardon, il y a une division dans l'histoire d'Israël. On voit bien que l'unité était encore un peu factice entre les tribus du Nord, qu'on va appeler désormais Israël, et les tribus du Sud, mais c'est surtout Juda qui prend position dans ces tribus du Sud et qui prend le pouvoir en main, la tribu de Juda, qui va persévérer jusqu'à la chute de Jérusalem, 587. C'est un enseignement théologique destiné à faire percevoir, à travers l'histoire de ces hommes, le déploiement du dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est de travailler avec l'homme. Volonté de Dieu contre volonté humaine. Je dis contre. Contre, ça veut dire en face, c'est-à-dire tout contre. C'est-à-dire en proximité ou en éloignement. Contre peut être pris dans les deux sens. À côté de la monarchie apparaît, et là c'est important, et c'est pour cela que les livres ont été écrits, le prophétisme, souvent prophète de cour, souvent adulateur du roi et partisan de la politique, mais aussi prophète charismatique, c'est-à-dire par vocation, et qui viennent comme cela tout d'un coup, et qui prennent position, qui reçoivent une position face à la dynastie, quand la dynastie n'est plus fidèle à l'alliance. Prophète charismatique, appelé immédiatement par Dieu, pour mettre en question la manière de gouverner des souverains. Il faut une instance critique, telle Élie et Élisée dans le nord, telle Isaïe et Jérémie dans le sud. Et donc l'histoire des rois, telle que vous la lisez dans la Bible, c'est une histoire où, justement, on critique constamment le pouvoir. Mais cette critique est faite non pas sur le plan de la politique, mais elle est faite sur le plan de la théologie. Pourquoi les choses ne vont-elles pas comme elles devraient aller ? Et avec le règne de Salomon, nous sommes à l'apogée de la royauté israélite. Mais il faut bien vous dire que le mot David et le mot Salomon sonnent dans la mentalité sémitique comme guerre, David, Daoud, c'est la puissance, la force, la passion, passion guerrière et passion amoureuse, et Shlomo, Salomon, signifie paix, guerre et paix. Donc comment la vie et la vie publique est une succession de guerres et de paix? Et comment cela apparaît-il sous le regard de Dieu? Avec le règne de Salomon, nous sommes à l'apogée de la royauté israélite. Elle s'établit fermement et se dote de tout ce qui caractérise les royautés proche-orientales. Et justement, c'est le travail de Salomon le Magnifique. Il va instaurer une véritable unité entre les tribus. Et cette unité entre les tribus va être centrée sur la réalité du temple et sur la sagesse de son gouvernement. Et c'est pourquoi Salomon devient le type du sage et en même temps du sage soumis à la réalité divine. Il construit un temple. Mais c'est dangereux de construire un temple parce que Dieu n'habite pas des temples faits de main d'homme. Et voyez-vous, traduire cette présence de Dieu par une maison qu'on lui construit et un culte que l'on rend et un culte fastueux, et nous voyons ça encore aujourd'hui, hein, aussi bien à Londres qu'au Vatican. Mais il y a un danger. Et ce danger, c'est précisément celui de l'idolâtrie, de vouloir mettre la main sur la présence de Dieu et de vouloir faire en sorte ou faire comme si le rite faisait advenir Dieu. Mais ça, c'est la magie. Et vous verrez bien, surtout dans les personnages et d'Élie et Élisée, d'une part, et de Jérémie et d'Isaïe et de Jérémie d'autre part, hein, nord et sud, vous verrez bien que c'est la grosse question. Que ce qui est mis en question dans ces livres, c'est la réalité profonde de ce que nous appellerions notre piété. Et il nous montre que notre piété n'est jamais tout à fait vraie. Qu'il y a toujours ambiguïté. Et chez David, nous l'avons vu, et chez Salomon aussi. Et donc, vous voyez, ça c'est la thèse de l'auteur deutéronomiste. Donc, mais Salomon, hein, plan de la conception que sur le plan de l'organisation du pouvoir, vous voyez qu'il est un sage. Il fait exactement comme il faut faire. D'où l'importance de débuter les livres des rois en racontant son règne. Mais peu après sa disparition, le royaume va se scinder en deux entités, comme je viens de vous le dire, par là se manifeste aussi la fragilité du pouvoir royal, malgré tous les bénéfices que pouvait en tirer le peuple. Et nous sommes donc toujours devant un choix à réaliser, un discernement. Et c'est pourquoi la vie de Salomon, après avoir parlé de la succession de David au chapitre 1 et 2 du premier livre des rois, on nous introduit précisément à Salomon le sage. Très important, ce chapitre 3e du premier livre des rois. Le roi, je vous lis, chapitre 3, Salomon, qui s'allie par mariage à Pharaon, roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharaon, et l'introduisit dans la cité de David. Donc, il faut s'allier avec les différentes puissances. Mais s'allier avec les différentes puissances, c'est s'allier aussi avec la manière de vivre de ces puissances. Une évolution se fait toujours par association. On s'associe de nouveaux principes, une nouvelle manière de vivre. Et il faut faire avec. Et il y a des résistances. Et il y a aussi une tentation de verser immédiatement dans tout ce qui est nouveau. Le roi alla à Gabaon pour y sacrifier, car le plus grand haut lieu se trouvait là. Le plus grand haut lieu, est-ce que ce lieu était un lieu consacré au Seigneur unique, ou bien de façon syncrétiste, c'est précisément le problème. Il a offert 1000 holocaustes sur cet autel. Sacrifice de 1000 bêtes. À Gabaon, le Seigneur apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Bonne question. Ça, c'est la question de la prière. Demande ce que je dois te donner. Non pas ce que tu veux que je te donne, mais ce que je dois te donner. C'est-à-dire, correspond vraiment à ce que je suis pour toi. Donc, entre dans l'alliance. Et nous voyons que c'est déjà un discernement de notre prière. Est-ce que nous ne disons pas souvent au Seigneur, allez, on va mettre un euro pour avoir ce que l'on désire? Non, ça c'est pas la prière. Ça c'est notre désir idéalisé. Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, et celui-ci a marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture du cœur. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu as permis qu'un de ses fils, lui-même, soit aujourd'hui assis sur son trône. À travers un petit complot, il faut bien vous dire, il faut relire les deux premiers chapitres du livre des rois, juste ce qui précède. Seigneur mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David, et moi, je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut le compter ni le recenser. N'oublions pas que c'était une toute petite royauté, toute petite. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Il plut au regard du Seigneur que Salomon ait fait cette demande. Et le Seigneur lui dit, parce que tu as demandé cela, que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, la victoire, mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement, voici que je fais ce que tu as dit. Dieu demande Dieu dit à Salomon de demander ce qu'il désire, lui, Dieu, et maintenant Dieu fait ce que l'homme voudrait. Je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi, et comme personne ne l'aura après toi. Donc Salomon se trouve à l'apogée de la sagesse. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi, une richesse et une gloire, comme à personne d'entre les rois. Et si tu suis mes voies, gardant mes lois et mes commandements, comme a fait ton père David, et nous avons vu que la conduite de David n'était quand même pas parfaite, je t'accorderai une longue vie. Salomon s'éveilla, et voici que c'était un songe. Il rentra à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'Alliance du Seigneur, symbole de la présence de Dieu. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion et donna un banquet à tous ses serviteurs. Et puis, juste dessus, parce que ceci, c'est la demande. Mais il faut voir maintenant si la réalité correspond à la demande. Alors, on va voir comment Salomon juge. Et c'est le fameux jugement de Salomon, pour les deux femmes qui avaient accouché, et il y avait un des deux enfants qui était mort, et il fallait savoir à qui appartenait l'enfant vivant. Et vous connaissez le jugement de Salomon qui suit justement après. Mais c'est pour nous montrer qu'il y a un discernement à opérer, et que ce discernement ne peut être opéré que dans la lumière et dans la force de Dieu. Sinon, ce discernement n'est plus juste. Et que toute l'histoire des rois soit mise sous cette décision, c'est-à-dire ce jugement que nous avons à faire tous, ce jugement personnel, mais en vérité devant Dieu, est important. Et c'est justement ce jugement qui va être repris constamment par les prophètes. Et les prophètes vont toujours dénoncer ce qui ne marche pas selon l'Alliance. Alors, on montre que Salomon n'est pas seulement un sage, mais qu'il est un constructeur, qu'il construit. Et qu'il construit quoi, d'abord et avant tout? Le temple. On a vu que David, Nathan avait dit à David, non. C'est le Seigneur qui construira une maison, et cette maison, c'était la dynastie. Et c'est ce successeur, c'est-à-dire Salomon, qui va construire la maison. Deuxième chapitre important auquel nous devons nous référer, c'est le transfert de l'Arche d'Alliance dans le temple, parce que jusque-là, il n'y avait pas de temple, il y avait une tente, la tente sainte, avec l'Arche d'Alliance et les tables de la loi. Et alors vous avez la construction du temple et le transfert de l'Arche d'Alliance. Et intéressant, dans ce chapitre 8e, qui était aussi assez essentiel, dédicace du temple, Hanouka. La fête en dédicace se dit en hébreu la Hanouka, qui est encore fêté aux environs du 25 décembre. Donc, on déposa les tables de l'Alliance que le Seigneur avait conclues avec les Israélites à leur sortie de la terre d'Égypte. Elles y sont restées jusqu'à ce jour, écrit donc le Deutéronomiste. Or, attention, nous sommes au chapitre 8, verset 10. Or, quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit le temple du Seigneur, et les prêtres ne purent pas continuer leurs fonctions à cause de la nuée. La gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Ah. Donc il n'y a au fond qu'un seul prêtre, c'est le Seigneur lui-même. Et ceci rejoint évidemment l'Épître aux Hébreux, où on nous marque, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous marque qu'il n'y a qu'un seul prêtre. Et ce seul prêtre, c'est le Seigneur présent dans le peuple. Et le prêtres ici sont stoppés dans leur action. C'est-à-dire que c'est la présence du Seigneur qui est importante, essentielle, beaucoup plus que la réalité du rite. Parce que, mine de rien, ce texte nous amène à une réflexion très profonde. Donc, à cause de la nuée, la gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Et dans la suite, nous verrons bien que le véritable temple, et saint Jean va encore le dire, hein, en citant Jésus, hein, que le temple fait de main d'homme, ça peut se détruire. Mais que le temple fait par Dieu, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme, c'est le peuple qui est présence de Dieu. Et alors vous avez le discours de Salomon au peuple qui suit, dans le chapitre 8e du premier livre des Rois, et puis la prière pour le peuple. On voit bien que cette prière pour le peuple, hein, est une œuvre d'après l'exil, puisqu'on parle déjà de l'exil et de ce qu'il faudra faire quand on aura perdu le temple, le peuple et le roi. Donc, les dons de Dieu vont disparaître. Et la royauté va être l'instrument qui va faire disparaître les dons de Dieu. Qu'est-ce que cela peut signifier? Et pourtant, l'homme va essayer de vivre avec cette présence de Dieu au cœur, qu'il va essayer de rejoindre, et qu'il n'est pas capable de vivre en vérité. Et donc on voit que l'échec est toujours déjà présent. Et c'est ça le sens de la prière de Salomon. Salomon prie déjà avec l'échec futur. Et un échec qu'il ne peut pas dominer, mais qu'il l'offre à Dieu. Et alors, vous avez, à partir du verset 52, la conclusion de la prière et la bénédiction du peuple. Quand Salomon eut achevé d'adresser au Seigneur toute cette prière et cette supplication, il se releva de l'endroit où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel devant l'autel du Seigneur, et se tint debout. Il bénit à haute voix, la bénédiction doit toujours se faire bekol ram, hein, à haute voix. Il bénit à haute voix, à grands cris. Et ce texte va être repris dans les récits de la Passion, où Jésus meurt à haute voix, à grands cris. C'est une bénédiction de l'humanité. Béni soit le Seigneur, qui a accordé du repos à son peuple Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il a dites par le ministère de son serviteur, de ses serviteurs, Moïse. Aucune n'a failli. Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous comme il fut avec nos pères, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous rejette pas. Il incline nos cœurs vers lui pour que nous suivions toutes ses voies et gardions les commandements, les lois et les ordonnances qu'il a données à nos pères. Puisse ces paroles que j'ai dites en suppliant devant le Seigneur rester présentes jour et nuit au Seigneur notre Dieu, pour qu'il rende justice à son serviteur et justice à son peuple Israël, selon les besoins de chaque jour. Tous les peuples de la terre sauront alors que le Seigneur seul est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et votre cœur sera tout entier au Seigneur notre Dieu, observant ses lois et gardant ses commandements, comme maintenant. Voilà donc, en quelque sorte, l'idéal, la constitution, constitution de l'Alliance. Et on montre encore que Salomon, hein, qui est constructeur, qui est sage, qui est constructeur, est aussi bon commerçant. Et vous avez, hein, tout un encore un chapitre, le chapitre 10e surtout, hein, sur le commerce. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une sagesse dans la réalité de tous les jours. Et donc il est devenu très riche. Mais il y a des ombres aussi à la royauté de Salomon. Et ces ombres viennent des femmes étrangères. Et au chapitre 11e, où on parle des ombres de Salomon, c'est que Salomon est divisé entre adorer le Seigneur et lui rendre le service liturgique. Il est grand prêtre aussi, hein, Salomon. Et le désir de ses femmes, qui sont des femmes étrangères et qui apportent toutes sortes de divinités. Donc il y a aussi le problème de savoir comment unifier cette perception de la présence divine comme un seul Dieu. Quelles sont les images que nous donnons à Dieu pour que ces images ne soient pas idolâtres? Parce que c'est très bien, hein, d'épouser des princesses étrangères, que ce soit une princesse de Tyr, hein, ou une princesse d'Égypte, ou d'autres régions, peu importe. Mais elles apportent chacune leur mentalité, leur culture, leur perception religieuse. Comment faire l'unité? Qui peut faire cette unité? Et nous verrons, évidemment, et ça c'est dans la mentalité de la Bible, seul peut faire l'unité la sagesse. La sagesse qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que, déjà à l'époque de Salomon, on voit se déployer parmi les écoles de scribes cette idée de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire le dessein d'amour et de vie de Dieu sur non seulement le peuple d'Israël, mais sur l'humanité entière. Car tous les peuples ont une sagesse. Mais il faut aussi discerner à travers ces sagesses. Et qui fait ce discernement ? Est-ce que c'est la convention populaire, la démocratie, un consensus, ou bien est-ce que c'est une présence de Dieu qui communique à l'intime de chacun? Et nous atteignons ici vraiment le but profond de l'auteur deutéronomiste. Cet auteur deutéronomiste qui nous raconte l'histoire du point de vue de Dieu, est vraiment possédé par cette idée de la présence du Dieu unique. Mais si Dieu est unique, il faut que notre action soit aussi dans son sens. Et il faut donc être des instruments de paix, de réconciliation, là où nous vivons, dans notre société, qu'elle soit commerçante ou non. Et justement, qu'est-ce qui se passe au chapitre 11, précisément dans les ombres du règne? Il y a les femmes et puis il y a les hommes. Et les hommes ne s'entendent pas. Et eux, ils se tuent mutuellement. Le Seigneur, ben, écoutez comment c'est raconté, hein, au chapitre 11 du premier livre des Rois, verset 14. Le Seigneur suscita un adversaire à Salomon. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on raconte l'histoire comme ça? Est-ce que Dieu fait le bien et le mal? Non. Mais comme il n'y a qu'un Dieu, qu'il n'y a pas un Dieu du bien et un Dieu du mal, il faut bien montrer que tout est dans la perspective de Dieu. Donc il faut qu'il soit capable de transformer le mal en bien. Donc dire qu'il suscite un adversaire à Salomon, ça veut dire Dieu traverse la réalité qui est souvent toujours ambiguë et souvent mauvaise. Le Seigneur suscita un adversaire à Salomon. Adversaire, l'adversaire c'est le Satan. Hein. Satan, hein, le mot Satan, signifie justement l'adversaire, l'obstacle. Donc le Seigneur suscita un adversaire à Salomon. L'Édomite Hadad, de la race royale d'Édom. Ah voilà, ça vient de l'étranger. Les difficultés viennent de l'étranger. On peut s'associer des qualités de l'étranger, mais il faut toujours juger les choses. Après que David eut battu Édom, quand Joab, chef de l'armée, était allé enterrer les morts et avait frappé tous les mâles d'Édom, Hadad s'était enfui en Égypte avec les Édomites au service de son père. Hadad était alors un jeune garçon. Ils partirent de Madian et arrivèrent à Paran. Et puis on vous raconte alors l'histoire des ennemis extérieurs d'Israël. Il y a toujours des ennemis. Il y a toujours un obstacle. Et cet obstacle vient de l'extérieur, il est étranger. Et pourtant, il trouve des connivences en nous. Et on vous raconte donc que ces ennemis ne sont pas seulement extérieurs, mais ils sont même intérieurs. Et voilà que le schisme va être présent. L'unité qui avait été constituée à grand-peine par David et puis par Salomon, plus facilement en quelque sorte, va se dissocier immédiatement après. Et c'est ce qu'on appelle la révolte ou le péché de Jéroboam. La division est toujours le péché, c'est-à-dire le refus de vouloir s'entendre, le refus de vouloir faire alliance. Et Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut mater la rébellion. Et on tue des hommes. C'est pas une histoire ancienne, hein? Nous avons ça sous nos yeux encore. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Celui-ci partit et s'enfuit en Égypte, auprès de Shéchonk, ou Shéchak, roi d'Égypte. Et il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Et puis après, il revient. Et donc, c'est la scission. Conclusion du règne. Au chapitre 11, au verset 41. Le reste de l'histoire de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, n'est-ce pas écrit dans le livre de l'histoire de Salomon? Il y a des archives. Si vous voulez savoir ce qu'il a fait de manière extérieure, allez voir, il y a des archives. Allez à la Bibliothèque nationale. La durée du règne de Salomon à Jérusalem sur tout Israël fut 40 ans, comme David. Le règne de David, 40 ans. Le règne de Salomon, 40 ans. Le séjour des Israélites au désert, 40 ans. 40 ans. C'est la durée d'une expérience spirituelle, concluante, c'est-à-dire d'une expérience spirituelle qui mène à un discernement sensé, un discernement d'adulte. Avant 40 ans, on ne fait pas un discernement d'adulte hein, en Israël. La durée du règne de Salomon à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Puis Salomon se coucha avec ses pères. On l'enterra dans la cité de David, son père, et son fils Roboam régna à sa place. Et voilà, le schisme est consommé. Et alors, le schisme va être décrit au chapitre 12 et 13 de ce livre. Et apparaît à ce moment-là le prophète. Il y a un prophète qui vient superviser le discernement, si vous voulez. C'est sa tâche. Et alors, on va distinguer l'histoire du Nord et l'histoire du Sud. Dans le royaume du Nord, appelé Israël, Samarie, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites, et de bonnes choses. Mais la difficulté du royaume du Nord, elle est double. Dans le royaume du Nord, la dynastie n'est pas continue. Il y a des révoltes de palais. Il y a des putschs militaires. Hein? Le commandant de l'armée va prendre la place du roi. On va le tuer, et puis on va s'installer à sa place. Et on va faire pareil. Ça, c'est une des difficultés du Nord. Mais cette difficulté du Nord vient, suivant l'auteur deutéronomiste, vient du fait du syncrétisme religieux. On n'est plus tout à fait à Dieu. On est tout à fait à Dieu si on veut, en principe, en idéal, mais on lorgne vers d'autres dieux, c'est-à-dire d'autres réalités humaines qui deviennent absolues, comme le pouvoir, comme le plaisir, hein, comme la richesse. Et alors, vous avez donc cette histoire qui se continue dans les numéros suivants, dans Biblia 55, 56, 57. Le titre de cette livraison, 57, numéro 57 de Biblia, sur la terre du prophète Élie. Eh bien, sur la terre du prophète Élie, justement dans le nord, hein, en Israël, où on va avoir des dynasties différentes, Omri, Akab, Jéhu, ce sont les trois grands personnages qui vont vraiment avoir, sur le plan politique et sur le plan de l'organisation sociale, ils vont avoir une influence capitale dans le nord. Les fouilles archéologiques qu'on a faites là, en Samarie, le montrent bien, mais montrent bien aussi la grande misère de ce peuple qui est divisé. Vous avez, dans une ville à côté de Samarie, vous avez encore des quartiers très riches, qu'on a découvert les fondations, et juste en face, un quartier extrêmement pauvre. Et alors vous pouvez vous représenter le prophète Amos, qui est le successeur même d'Élie et d'Élisée, hein, mais il est du sud, mais il vient prêcher dans le nord, hein, le prophète Amos, et puis Osée, mais surtout Amos, hein, qui vitupère contre cette différence dans la société. Les riches d'une part, et les pauvres qui n'ont rien. Non, c'est un socialiste d'avant, hein, la lettre. Prophète Amos. Mais cette idée est déjà comprise dans les récits concernant Élie et Élisée. Élie et Élisée, ce sont les deux champions de Dieu, c'est-à-dire deux hommes avec des caractères très différents, deux hommes qui ont vraiment cette présence de Dieu au cœur. Ils sont possédés par cette présence. Élia, le mot Élie dit Dieu, c'est Yahvé. Touche pas à mon Dieu, hein. Et donc c'est vraiment, nous dirions, l'intégriste par excellence. Et donc tous les autres, il faut les tuer. Hein. 450 prophètes de Baal. Donc c'est l'anti-Baal. Baal, c'est le maître. Hein. Tout ce qui maîtrise l'homme, tout ce qui le rend esclave. Esclave d'une idée, d'une mentalité, d'une perception de Dieu. C'est-à-dire une perception de l'absolu. Et justement, Élie, puis Élisée, vont être les champions de cette présence du Dieu unique dans un milieu qui devient de plus en plus syncrétiste, où on mélange tout, où il n'y a plus de bien et de mal, parce qu'il n'y a plus de présence divine. Nous dirions, il n'y a plus de loi naturelle, de loi de nature. On fabrique tout. Et on fabrique des lois frelatées, mais toujours au service d'une puissance. Le savoir est une puissance, la domination est une puissance, le commerce peut être une puissance, le plaisir est une puissance. Et c'est l'écriture même du deutéronomiste qui nous montre cela à travers des attitudes. L'attitude du prophète qui est choisi par Dieu pour faire ce qu'il ne voudrait pas. Et Dieu conteste constamment son prophète. Et ça, c'est important aussi. On est dans la mentalité de la loi, de la Torah, mais attention, la Torah ne se propose plus de la même manière. Et vous avez hein, cette belle histoire d'Élie, sa vocation. Le cycle d'Élie qui commence au chapitre 17e du premier livre des Rois. On vous raconte Élie tout près du torrent du Kérit, là, et qui commence par vivre de façon très pauvre. De l'eau, à torrent, et du pain qui lui est apporté par des corbeaux. C'est-à-dire, il doit vivre d'aumône. Mais, en même temps, le miracle de la farine et de l'huile. C'est-à-dire, c'est lui-même qui n'a rien qui donne à manger. Et puis, la résurrection du fils de la veuve, vous connaissez bien l'histoire. Et puis, finalement, vous avez Élie qui va essayer de retrouver l'esprit de la Torah. Et pour retrouver l'esprit de la Torah, il va faire le retour en arrière jusqu'au mont Horeb, c'est-à-dire jusqu'au Sinaï, jusqu'à l'endroit où la Torah a été donnée. La Torah est donnée. Nous disons que la réalité humaine, celle dont nous vivons, est un donné. Mais quel est le donateur? Et c'est la question. Donc Élie se dit, moi je ne peux plus prêcher que si je ne me simplifie pas et que si je ne retrouve pas cette présence divine en moi. Et ça c'est le chapitre 19e, au verset 9. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole du Seigneur lui fut adressée, lui disant, « Que fais-tu ici, Élie ? Pourquoi t'es là ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Donc, prends un peu conscience de ce que tu es, de ce que tu fais. Il répondit, « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaoth, des armées, parce que les enfants d'Israël t'ont abandonné, qu'ils ont abattu tes autels, et tu étais prophète par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Ah, t'as peur, t'as peur de ta vie. Il lui fut dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur, et voici que le Seigneur passa. » Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Ah, en avant du Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Il n'est pas dans les images que nous nous faisons de la réalité de Dieu. Ces réalités de Dieu, telles qu'elles avaient été, bien sûr, décrites, racontées dans l'histoire du Sinaï, chapitre 19e à 24 de l'Exode. Et après le feu, la voix d'un silence ténu. La voix, Cole, d'un silence ténu. Dieu n'est pas dans l'extériorité des choses ni dans les images que nous nous faisons. Dieu est dans la réalité la plus intime. Il ne va pas chercher la parole de Dieu dans les hauteurs, il ne va pas le chercher dans les enfers. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Ça, c'est le Deutéronome qui le dit, c'est-à-dire même auteur, même école. Chapitre 20e du Deutéronome. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Dieu nous apparaît comme une voix extrêmement ténue, d'une fragilité extrême. Et il faut une perception très, très profonde pour l'entendre. Il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et il ne se renferme plus sur lui-même dans sa grotte. Au creux du rocher. Alors une voix lui parvint qui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Ah, la même question se repose, mais plus intérieure encore. Il répondit, Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur des armées, parce que les enfants d'Israël t'ont abandonné, qu'ils ont abattu tes autels, et tu étais prophète par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Alors, il répète. Il n'a pas encore fait tout à fait le pas. Est-ce que tu as bien entendu la voix d'un silence ému? Le Seigneur lui dit, va, retourne par le même chemin. Retourne dans le concret de ton existence. Vers le désert de Damas, tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram. Hein, Aram, la Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Bon, nouvelle dynastie, on va renouveler les choses. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Mehola, comme prophète à ta place. Tu vas laisser, abandonner, te retirer, t'effacer. Devant la réalité telle qu'elle est, et qui va se renouveler autrement. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. C'est-à-dire qu'il va y avoir du grabuge, il va y avoir des morts et des destructions. Mais, j'épargnerai en Israël 7 milliers, tous les genoux qui n'ont pas plié devant Baal. Mais si tu gardes au cœur la présence divine, tu constitueras ce qu'on va appeler avec Isaïe le petit reste. Et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. Il partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, tandis qu'il labourait avec 12 paires de bœufs, lui-même étant à la 12e. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. » Élie lui répondit, « Va, retourne, que t'ai-je donc fait ?» Élisée le quitta, prit la paire de bœufs et l'immola, il se servit de la charrue pour faire cuire les bœufs, et donna à ses gens qui mangèrent, puis il se leva et suivit Élie comme son serviteur. Il faut tout lâcher. Il faut même lâcher la manière dont on conçoit la prophétie. Parce que Élie va concevoir la prophétie autrement qu'Élie. Et alors, nous avons l'histoire d'Élie, qui au milieu des guerres de son peuple, va essayer aussi d'opérer un discernement. Et ici, c'est la tâche du prophète qui se trouve dessiné. Et prophète justement dans un milieu qui devient syncrétiste, hein, qui est, nous dirions aujourd'hui, qui est dans la modernité, sécularisé. Comment retrouver cette présence divine à l'intérieur d'un milieu qui n'est plus traditionnellement croyant? C'est le problème d'Élie et d'Élisée dans le milieu syncrétiste de la Samarie, où on vit bien. Avec tous les problèmes, pourquoi y a-t-il de la pauvreté? Puisqu'on vit bien. On vit bien, mais il y a des immigrants, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des gens qui ne vivent pas bien. Et donc le besoin du prophète qui va faire attention aux petits, qui va rappeler que la réalité commence par en bas et pas par en haut. Ça, c'est l'histoire dans le royaume du Nord. Et parce que les gens ne veulent pas entendre les prophètes, mais qu'ils préfèrent, les dominants préfèrent écouter ceux qui les encensent, eh bien, ça va foirer. Et en 721, arrivent les Assyriens, et ils viennent prendre Samarie, parce qu'il y a de la richesse en Samarie. Et donc c'est cette histoire que vous retrouvez dans toutes les guerres et qui nous mène au deuxième livre des rois, Histoire dans le Nord. histoires dans le sud, alors, et ces deux histoires sont mélangées. Et c'est ce qui font une grosse difficulté pour faire une chronologie un peu cohérente. Et je vous ai mis au chapitre, à la page 88 du Syllabus, la matière des deux livres des rois, avec l'accession au pouvoir, la politique salomonienne, activité culturelle et religieuse, je viens d'en dire un mot, et puis la distinction entre Israël et Juda. Et nous reprendrons la fois prochaine l'histoire de Juda, du sud, puisque c'est lui qui va rester alors que la Samarie, le nord, va être pris par les Assyriens avec Sargon II. Eh bien, qu'est-ce qu'est devenu ce royaume de Juda, des Judéens? Nous verrons ça la fois prochaine. Mais de nouveau, raconté dans une histoire théologique. Merci et à lundi prochain, si vous le voulez bien.